On va parler du mentalisme et des mentalistes, car ce ne sont pas seulement des gens mis en scène dans des séries télé, c'est aussi une véritable profession et une vraie question, comment comprendre, comment prévoir le comportement humain, une question qui concerne aussi les psychiatres, les psychanalystes, une question qui concerne aussi les éthologues, puisque finalement lorsqu'on cherche à prévoir le comportement des animaux, bah là aussi on se pose un peu les mêmes questions. On en parle ce matin avec vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur notre compte Twitter Service Public FI. C'est à ces petits signes que l'on voit que la France est encore une grande nation. Le Conseil d'État vient d'interdire aux moins de 18 ans le film d'horreur Saw 3D. Chapitre final, 5 ans après sa sortie. Alors pour vous, ça fait probablement 3 informations en une. L'interdiction du film Saw 3D, l'existence de ce film et les 5 ans nécessaires au Conseil d'État pour prendre une décision. Si le monde entier fonctionnait aussi lentement que le Conseil d'État, ce serait affreux. Il pourrait par exemple y avoir des corrompus encore à la tête de la FIFA. Et si le Conseil d'État a interdit Saw 3D, c'est parce que ce film comporte, je cite le Conseil d'État, de nombreuses scènes de très grande violence. Ce qui est la preuve que le Conseil d'État a vu ce film. C'est également la preuve de la très grande fraîcheur du Conseil d'État qui peut interdire un film, relançant ainsi sa carrière auprès des vieux, parce que les jeunes, eux, y trouvent beaucoup mieux, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus pire, sur Internet. Sauf, bien sûr, si l'interdiction aux moins de 18 ans les incite à voir ou à revoir ce film. Mais cette décision le montre, la France est un grand pays où le Conseil d'État a le temps de se faire une petite séance de films d'horreur entre énarques. Or, figurez-vous que cette série de films d'horreur, la série des Saw, n'est pas n'importe quelle série. Elle met en scène des prisonniers menacés non seulement par des monstres sadiques, mais aussi susceptibles d'être menacés par d'autres prisonniers. En réalité, la série des Saw met en scène ce qu'en économie on appelle le dilemme du prisonnier, un dilemme qui est au cœur de la réflexion sur le capitalisme contemporain. C'est ce fameux dilemme du prisonnier qui a valu à John Nash, mort la semaine dernière, le prix Nobel d'économie. Le dilemme du prisonnier conceptualise la question de la coopération, notamment sur le marché du travail. Les agents économiques, se demande Nash, ont-ils intérêt à s'entraider ou bien ont-ils intérêt à s'entretuer ? Alors c'est vrai, interdire Saw 3D, c'est interdire aux jeunes de voir des scènes d'une très grande violence, celles qui caractérisent, par exemple, le marché du travail.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Le mentaliste, c'est bien souvent ça.
Et si c'était une querelle d'amoureux qui s'était mal terminée ?
C'est possible, c'est vrai, mais c'est pas ce que je ressens.
Qui c'est celui-là ?
C'est un consultant, il travaille pour le CBI. Il nous suit partout, il fait partie des bagages.
Oh, un consultant ? Vous êtes quoi ? Clairvoyant, extra-lucide ? Vous avez des pouvoirs ?
Non, pas de pouvoir. Autrefois, oui. Enfin, j'ai prétendu que j'avais des pouvoirs. Mais on sait que ça n'existe pas, tout ça.
Ah ouais, c'est quoi votre truc, alors ?
Vous jouez à Shifumi ?
J'y joue.
On fait une partie ? On y va. Shi, Fu, Mi.
Un extrait de la série Le Mentaliste, et ça n'est pas qu'une série, c'est aussi une profession, c'est aussi une question. On en parle ce matin en compagnie de notre psy du mercredi, Serge Effez. Salut Serge.
Bonjour.
On en parle également en compagnie d'Éric Bonnefoy. Alors vous êtes en un sens mentaliste, vous êtes plus précisément comportementaliste animalier. Éric Bonnefoy, bonjour.
Bonjour.
Vous avez notamment publié Votre chien et vous heureux ensemble, et vous allez nous expliquer comment on peut prévoir le comportement d'un être qui ne communique pas avec nous selon les standards habituels, les standards humains. Et puis enfin, le mentaliste, c'est Pascal de Clermont. Bonjour.
Bonjour.
Vous
bonjour.
Êtes mentaliste professionnel depuis 1988. Vous avez exposé en quoi consistait votre pratique dans « Et si vous deveniez mentaliste » aux éditions Hachette. Et vos enfants sont hyper mentalistes, mais vous ne le savez pas. Et moi, je ne sais pas exactement ce qu'est un mentaliste, Pascal de Clermont.
Un mentaliste, c'est une personne qui travaille, développe, enseigne les capacités, comment optimiser les capacités mentales, que ce soit du côté cognitif, communication, mémoire, logique, mais aussi observation, hyper-observation, comme on voit dans le film Le Mentaliste, dans la série, et aussi tout ce qui est anticipation, travail de communication mentale. Donc c'est assez large. Globalement, c'est tout ce que les capacités humaines, mentales, recèlent. On verra que l'instinct qui est caractéristique souvent des animaux, fait partie, bien entendu, l'intuition. Instinct, c'est la même chose. Des capacités mentalistes numéro un, je dirais. Beaucoup de capacités n'étant que des béquilles pour retrouver ce naturel.
Comment devient-on mentaliste ?
On devient mentaliste d'abord parce qu'il y a un inné assez important, des facilités innées, tout simplement. Après, il y a des acquis derrière, et un contexte pour avoir la possibilité de l'exploiter, d'en vivre, et une passion pour ça. Mais cette passion est née du contexte et est née de l'inné de base. J'aime pas dire le mot don, parce que dans ce domaine-là, le mot don prend tout de suite une connotation magique. On dirait quelqu'un a le don pour la danse, le don pour la musique. On n'y voit rien d'étrange, de magique. On dit il a le don du mentalisme, il a le don de la perception. Tout de suite, ça prend un aspect magique, alors que pas spécialement. C'est simplement une configuration mentale innée qui facilite l'accès à certaines fonctions de communication, de méta-observation, en fait d'observer ce que les autres ne voient pas, les tout petits détails.
Par exemple, donnez-nous un exemple concret.
Ça peut être aussi bien au niveau des changements dans la voix, des changements au niveau de la couleur du cou, de petits mouvements autour de la bouche. Ça peut être le changement d'odeur d'une personne, mais ça, un animal va le ressentir, par exemple.
Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, savoir quand quelqu'un ment ?
On va savoir quand une personne émet l'idée de mentir, parfois, lorsqu'on se met en état de... Parce qu'on peut jamais déceler qu'est-ce qu'un mensonge ou une vérité, parce que c'est très subjectif. Mais on peut déceler les perturbations chez une personne qui sont propres à son acte de mentir. Mais il faut encore qu'il y ait une vraie motivation. Quelqu'un qui va donner 10 phrases avec une qui contient un mensonge, il n'y a pas de motivation, il n'y a rien. Elle va pas trahir son mensonge, entre guillemets. Mais quelqu'un qui va vraiment vouloir... voir que donner une image fausse ou donner un message, faire passer un message faux, là va avoir ce qu'on appelle une incongruence, c'est-à-dire qu'il va avoir, il va y avoir des choses non cohérentes dans son comportement, et c'est ce qu'on va essayer de spotter.
Éric Bonnefoy, vous intéressez aux animaux, vous avez la capacité de lire dans les animaux. Comment fait-on pour comprendre un être qui ne possède pas notre langage ?
Alors tout d'abord, c'est une référence à une science qui s'appelle l'éthologie, qui est en fait une recherche appliquée avec des méthodes bien précises, des protocoles, qui conduisent à observer les animaux dans leur espace naturel. Alors il y a des éthologues pour toutes les espèces, hein. Moi, je suis plutôt spécialisé dans le domaine du chien, et donc dans la relation homme-chien. On observe avant tout le comportement de l'animal à travers cette connaissance qu'on a de par la science, et ensuite par une fine observation de l'animal dans son contexte environnemental, qui, pour ce qui me concerne, est le domaine familial et relationnel avec ses maîtres.
Eh bien, on va essayer de comprendre comment on peut comprendre les autres, comment on peut comprendre les autres êtres humains, les autres chiens. On en parle tout de suite après Saint-Germain Real Blues, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin.
Votre sérénité, vous êtes, je crois, un authentique descendant des Sables de l'Inde.
Oui.
Vous êtes... je crois d'ailleurs même que votre père était hindou.
Mon père était hindou.
Oui, votre arrière-grand-père.
C'est hindou aussi.
Oui, et votre arrière-arrière-grand-père.
Lui, c'était hindou. Hein.
Vous voyez. Pour conserver, pour entretenir son don de double vue, le sar absorbe une nourriture spéciale. Qu'est-ce que vous prenez pour votre dîner, votre sérénité?
Nourriture à l'huile.
Une nourriture à l'huile, et pourquoi?
Parce qu'il est sar, dîne à l'huile.
Voilà, il a souvent réponse à tout.
Oh Lord, I know. I ask, would you please, ma'am, come back home? Have called your little heart to come. Would you please, ma'am, come back home?
Service public sur France Inter, un service public consacré aux mentalistes, les mentalistes qui s'intéressent aux hommes, par exemple Pascal de Clermont qui est des nôtres, qui a notamment publié « Et si vous deveniez mentaliste » aux éditions Hachette, Éric Bonnefoy qui lui est une sorte de mentaliste, mais il s'intéresse aux animaux et il a notamment publié « Votre chien et vous heureux ensemble ». Et puis enfin Serge Effès qui est une sorte de mentaliste puisqu'il est psychiatre et psychanalyste, il a écouté Pascal de Clermont expliquant en quoi consistait sa pratique. Qu'en pensez-vous, Serge, du mentalisme ?
Je dirais que ça a quelque chose de très familier, évidemment, pour quelqu'un qui écoute et qui s'intéresse au psychisme humain. Vous savez, les psychanalystes qui s'intéressent au développement du nourrisson aujourd'hui, eh bien, ils découvrent, et Pascal de Clermont en parle dans ses livres, les extraordinaires facultés spontanée des nourrissons. Ils ont ce qu'on appelle une perception amodale, c'est-à-dire que nous percevons soit avec notre goût, avec notre odorat, avec notre toucher, avec nos oreilles, et tout ça, c'est des perceptions séparées. Les nourrissons, ils arrivent à... C'est comme s'ils avaient une perception supérieure qui englobe tous les sens. Et c'est comme s'ils avaient des capacités de transcodage, c'est-à-dire de transformer ce qu'ils perçoivent avec une modalité dans une autre modalité. Et ça leur donne une perception naturelle, spontanée, instinctuelle, comme vous disiez, tout à fait extraordinaire. Et ce type de perception qui leur permet de découvrir le monde, j'irais d'avaler le monde autour d'eux, de percevoir des milliers de choses que nous ne percevons plus par la suite, eh bien ce type de perception, effectivement, ils les perdent parce que petit à petit, ils acquièrent le langage, et que le langage les fait fonctionner à un niveau beaucoup plus intellectuel. C'est comme si ça séparait finalement les représentations du corps, et toutes ces expériences du corps, tout cet appui sur les perceptions, ils le perdent.
Pascal de Clermont, est-ce que ça veut dire, puisque vous avez écrit sur les enfants, vous avez écrit un livre qui s'intitulait « Vos enfants sont hyper mentalistes, mais vous ne le savez pas », cela signifie-t-il que les enfants, selon vous, ont des capacités que les adultes n'ont plus, ont perdu ou ignorent à leur âge?
Tout à fait, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord dans la manière dont le présente Serge. Cette perception globale, sous forme, entre guillemets, on va la perdre, mais on peut la retravailler. Et les enfants, jusqu'à peu près l'arrivée à l'école maternelle, vont conserver ça beaucoup plus facilement. Après, ils vont se normaliser. On va leur faire perdre ça. D'abord, il faut les formater parce que ça rentre mieux dans la société. On va les marginaliser parce que les autres n'ont pas forcément ces capacités. Ils vont lentement rentrer dans le rang en perdant une forme d'instinct naturel de perception globale, de perception multidimensionnée, cette capacité à percevoir d'autres choses que simplement ce que nos sens nous disent. Eh ben, on va leur enlever. C'est pas qu'ils la perdent, mais on va leur enlever. Simultanément, on va aussi leur apprendre que c'est pas bien. Et ensuite, par rapport à ça, il va y avoir le problème de l'empathie. L'empathie qui devrait être une force phénoménale et qui en est une. C'est la capacité de ressentir l'expérience psychologique de l'autre. Eh bien, on va leur dire, ben non, c'est pas bien, et ça vous fait souffrir. Donc, on l'enlève aussi. En quelque sorte, le langage, effectivement, et plein de manières de formater vont faire en sorte que l'enfant va ne plus être et ne plus avoir toutes ces possibilités fabuleuses. Mais attention, ces possibilités, ça se retravaille, ça se redécouvre. J'essaye de comparer ça comme une mine ou une mine de diamants dont les pierres seraient à fleur de terre. Et ça, c'est quand on est jusqu'à 3-4 ans. Et après, au fur et à mesure, il y a des couches de terre qui se rajoutent dessus. Et plus on va attendre pour travailler dessus, plus il va falloir creuser pour retrouver ces joyaux. Mais ils sont là. Et ces ressources, elles sont présentes dans un nombre phénoménal de personnes. Et c'est presque, pour moi, une tristesse de voir, quand je vois en formation des gens qui viennent retrouver ces capacités qu'ils savent qu'ils ont perdues ou qu'ils retrouvent chez leurs enfants. Et ils veulent réapprendre à les utiliser.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a par exemple, des techniques qui sont de plus en plus répandu aujourd'hui, et je dirais de plus en plus sollicité par les patients, c'est l'hypnose, par exemple. L'hypnose, c'est une technique, c'est pas du tout retrouver des souvenirs oubliés, c'est pas du tout être sous la suggestion de quelqu'un qui va vous dire quoi faire, c'est tout à fait l'inverse, c'est retrouver cette spontanéité, c'est-à-dire c'est pouvoir relier, à travers l'expérience de l'hypnose, ce qui se joue dans le corps et ce qui se joue dans les pensées et dans les représentations, c'est relier à nouveau ce qu'on a délié quand on était enfant, c'est-à-dire la capacité de penser, la capacité de ressentir.
Éric Bonnefoy, alors évidemment, l'animal, lui, n'est pas socialisé au sens humain du terme. En revanche, il y a de l'éducation, parfois même du dressage. Et dans vos ouvrages, vous insistez beaucoup sur le couple qui se crée entre le maître et son animal, qui est, selon vous, responsable d'une grande partie du comportement de cet animal.
Oui, tout à fait. Alors, comme chez l'humain, on a une part d'innée dans les comportements, une part d'acquis. Chez l'animal, et notamment chez le chien, on mesure à peu près ça en pourcentage, en part, à 20% de comportements chez l'animal, chez le chien, qui sont des comportements portés par l'inné, donc sa génétique, etc. Et 80, enfin, les trois quarts des comportements qui sont des comportements acquis. Donc, acquis auprès de qui ? Auprès de son environnement, avec son environnement le plus proche, et notamment acquis avec l'humain. Et donc, avec toute cette problématique de cette difficulté pour le chien d'évoluer et d'apprendre, avec des gens qui ne parlent pas comme lui, c'est-à-dire qui n'ont pas le même visuel, qui n'ont pas le même repère dans le monde. Et donc, c'est toute cette difficulté qui conduit à des difficultés de communication et conduit à des grosses difficultés comportementales pour l'animal et même pour le maître, qui est en jeu. Je voulais juste rebondir sur l'enfant. J'ai dans le projet d'écrire même sûrement un ouvrage qui s'intitulerait Le chien, un enfant presque comme les autres. C'est-à-dire que c'est aussi cette façon de dire que l'approche de l'animal, du chien notamment dans la famille, est presque une approche telle que l'a l'enfant. C'est-à-dire on est vraiment dans ce présent, dans cette instantanéité.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de chien adulte?
Eh bien, c'est une bonne question, parce qu'en attendant, on a souvent en éthologie repéré qu'on considère que le chien de compagnie, pour le différencier de son ancêtre, le loup, qui est très lointain, mais est un animal plutôt puéril. C'est-à-dire que, à force de cette relation avec l'humain, il a perdu un peu de caractère adulte tel qu'il pourrait l'avoir à l'état sauvage.
Nous avons Sabine au standard. Bonjour Sabine, nous appelez de Nice et nous vous écoutons.
Ben voilà, je voulais vous dire que moi je vis avec une meute de 5 chiens et je m'aperçois que c'est vraiment télépathique, quoi. Je veux dire, je vois, je ressens ce qu'ils veulent dire, on se comprend, quoi, sans parler. Et d'ailleurs, je me suis aperçue que du coup ça développe quelque chose chez moi, complètement à mon insu, vis-à-vis des autres humains. C'est-à-dire que quand je vois bien quand quelqu'un me fait de l'évitement ou dit une connerie, enfin voilà, pardon, mais je le sens bien. Et je me dis, bon, j'ai dû développer quelque chose. Et je voulais dire aussi que moi, mes chiens, c'est des chiens, quoi. C'est pas des humains. Alors probablement que moi, je suis devenue un peu un chien, voilà. Et pas l'inverse, parce que souvent, je vois des trucs, enfin, hallucinants, quoi.
Bon, on va pas vous critiquer parce que vous allez aboyer, hein, sinon, Sabine, mais on va quand même demander à Éric Bonnefoy de réagir.
Oui, oui, cette remarque est intéressante, dans le sens que c'est presque le cœur de toute l'activité d'un comportementaliste animalier, et en tout cas dans la question du rapport à l'animal domestique de compagnie, c'est effectivement d'essayer de recentrer les gens, de les reconduire sur cette entre guillemets animalité qu'ils peuvent avoir et cette capacité à entrer en communication non verbale avec l'animal qui est l'objet du coaching qu'on fait avec les maîtres.
Pascal de Clermont, vous faites aussi du coaching.
Je voulais quand même rajouter quelque chose par rapport à Sabine. Ce qui est très très intéressant de voir, c'est que j'essaye d'expliquer à tous les élèves des formations que la meilleure manière d'apprendre l'humain va être aussi énormément d'observer les animaux. Et c'est là où on apprend à ne plus utiliser le langage. C'est là où le langage verbal, c'est là où on apprend à repérer les mimiques, les micro-mouvements, les changements d'odeur, de position. On veut apprendre à décoder les humains, qu'on apprenne à observer sur les animaux. Et on en parlait tout à l'heure avec Eric, on s'est retrouvé à l'accueil. C'est voir ça sur les animaux familiers, mais domestiques, mais aussi aller observer des animaux entre le domestique et le familier, des animaux de nos jardins, des des petits mammifères, et on va se rendre compte qu'il y a énormément, énormément à apprendre. Donc les élèves des formations ont comme mission d'aller observer les animaux autant que d'observer les humains. Ils ont aussi la mission de les sauver, mais ça c'est aussi un combat personnel. Mais
d'ailleurs, il y a des enfants et même des adultes qui se soignent au contact des animaux.
Bien entendu.
Il y a ce qui s'appelle l'équithérapie, par exemple, qui est absolument passionnante et qui permet à des jeunes filles qui ont des gros troubles alimentaires, par exemple, de retrouver leur corps, de s'ajuster mieux avec leur corps en s'ajustant dans la relation à l'animal. Et combien d'enfants autistes sont améliorés par la présence d'un chien à leur domicile.
Et les chats. Les chats qui soignent.
On écoute Étienne Dao et Charlotte Gainsbourg, IF.
Service public, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Fautif, IF, intrusif, plus combatif, sous-sélatif, en soins intensifs, cherche le motif. IF, négatif, maladif, inexpressif, et plus vraiment vif, cherche le motif. IF, trop captif, et décoratif, IF, défensif, à cran offensif, IF, incisif. Mes coups de canif, IF agressif. Qui est le fautif? IF intrusif, plus combatif, sous-sédatif, en soins intensifs, cherche le motif. IF négatif, maladif, inexpressif, et plus vraiment vif, cherche le motif.
Service public sur France Inter, un service public consacré aux mentalistes. Les mentalistes qui cherchent à décrypter les comportements humains, comme Pascal de Clermont, ceux qui travaillent plutôt sur les animaux, comme Éric Bonnefoy. Et justement, notre reporter Antoine Ly est allé voir comment on s'occupait des animaux, comment on se comportait avec eux, tout simplement parce que l'homme est un animal civilisé, de temps en temps d'ailleurs, pas toujours, mais un animal quand même. Y a-t-il des similitudes dans le comportement humain et animal? C'est la question que s'est donc posée notre reporter Antoine Ly. Pour y répondre, il a rencontré Lydia Simka. Elle est éducatrice pour chiens et depuis plus de 30 ans, elle dresse nos amis canins.
Loulou ! Ouais, va pas si loin mon loulou, viens là.
Là, il y a combien de chiens, là?
8 chiens.
D'accord. Il y a quoi comme race?
Berger blanc suisse, deux barouges, un braque allemand, un bigle.
comment on fait pour diriger le comportement d'un chien ?
Il faut que le chien sente en fait qu'il y a un gros tempérament derrière, et il faut aussi savoir être très gentil. Mais il faut qu'il sache que vous pouvez être très méchant, sans obligatoirement l'être. Mais il le sent, le chien le sent. Hector ! Ils lisent vos attitudes corporelles, sentent vos odeurs. Déjà, rien qu'en vous regardant, ils savent à qui ils ont affaire. Et à votre façon de vous tenir, le chien peut vous lire. On s'est bien rendu compte que les serial killers n'attaquaient que certaines personnes et pas d'autres. Et en fait, c'est vraiment l'attitude corporelle qui les incite à aller vers ces femmes-là et pas vers d'autres. Donc les chiens doivent pouvoir lire de la même façon que le font les serial killers, mais eux certainement encore mieux. Hector ! Ah, lui cherche toujours à dominer. Couché.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Lydia ?
Je leur fais faire un statique, je vais les coucher tous. Nancy ! Nancy ! Pas bouger.
Bah là, ils sont tous au calme, hein, c'est impressionnant, là. Comment vous faites ça ?
La répétition, comme pour les enfants, la répétition fait l'éducation. Hein. Je suis maman de 3 enfants, et oui, c'est la même chose que pour l'être humain, sauf que l'être humain est beaucoup plus complexe que le chien. Une fois qu'on connaît le chien, c'est quand même plus facile. Hector ! Plus je regarde les chiens, plus je trouve qu'ils nous ressemblent. Ah ouais. Si vous veniez tous les jours avec moi, vous verrez que vous pourriez comparer certains chiens à certaines personnes de votre entourage, c'est sûr.
Vos enfants, vous avez éduqué un petit peu à la même manière que les chiens ou pas ? Avec cette autorité naturelle que vous avez, avec cette voix ?
Avec un peu plus de culpabilité. À chaque fois que je fais quelque chose de mal, je me culpabilise pour mes enfants, alors que pas pour les chiens. Donc peut-être moins bien mes enfants que mes chiens, c'est sûr. C'est sûr. Je cède plus facilement aux enfants.
Ils ont des sentiments, les animaux, les chiens ?
Bien sûr, bien sûr.
Ils sont fidèles, les chiens ?
Alors, vous parlez de fidélité sexuelle.
Oui, oui, oui.
Non, je pense que la fidélité sexuelle n'existe nulle part.
Bah, chez les hommes, un petit peu, enfin, en théorie.
En théorie, alors. Par contre, en amitié, oui, je pense qu'ils sont fidèles. Quand ils aiment bien, ils aiment bien. Une grande différence entre le chien et l'être humain, c'est que le chien respecte les femelles. Il est rare qu'un mâle aille taper une femelle. Je vois exceptionnellement ça. Ils sont aussi respectueux par rapport aux âges. Un jeune chien va rarement attaquer un vieux et un vieux va rarement vouloir faire du mal à un jeune, même s'il est capable de le recadrer.
Bah, l'être humain devrait s'inspirer un peu plus des chiens. Alors.
On est d'accord. On est d'accord. L'être humain devrait s'inspirer des chiens. Oui.
Le reportage d'Antoine Lee avec vos remarques, Eric Bonnefoy, vous qui êtes comportementaliste animalier et qui avez publié Votre chien et vous, heureux ensemble.
Oui, alors là, on a fait référence, appel à une éducatrice canine qui fait du dressage. Donc là, on est dans quelque chose de, je considère, de quand même particulier, une branche particulière de la relation homme-animale qui est le conditionnement, même si, comme on en discutait, effectivement, beaucoup de choses passent par cet apprentissage. Mais c'est un rapport qui est, enfin, c'est une notion qui est complètement particulière. On a fait référence à des choses qui sont des domaines du domaine du comportement, notamment l'éducatrice canine a beaucoup parlé de domination, de dominant. Bon, il faut faire attention avec l'utilisation de ces termes qui ont été un peu galvaudés. La domination en éthologie a un cadre très précis. D'abord, elle n'a vocation à avoir une valeur qu'entre deux des individus, dans une situation particulière. On ne peut pas qualifier un individu canin de dominant au sens général, ce qui, à mon avis, n'aurait pas de sens non plus au sens humain. Mais voilà, donc ce sont des termes qu'il faut utiliser avec précaution. De même que vouloir, c'est un peu la grande mode aujourd'hui, pour tenter d'expliquer aux gens de devenir, d'avoir accès à cette compréhension animale, à cette capacité de retrouver des choses essentielles, j'allais dire, dans le comportement. L'idée qu'il faudrait que la famille soit une meute, en fait, pour essayer de véhiculer cette idée que ben, si vous vous comportez comme des chiens, votre chien va vous comprendre. Bon, mais, enfin, je veux dire, c'est du marketing parce que ça n'a aucun sens. S'il y a un groupe, c'est un groupe familial dans lequel il y a des individus qui sont différents. Le chien en est un, il est différent, mais c'est pas une meute, ça n'a aucun sens, c'est un raccourci qui conduit à des erreurs parce que dans la meute, il y a du rapport de force. Mm-hmm. Et si on rentre dans un rapport de force avec un chien, À part avec un York d'un kilo, la plupart du temps, on est perdant de fait. Donc, cette notion de meute n'a pas de sens d'un point de vue social avec l'animal, chez le chien.
Et pour les êtres humains, lorsqu'on rentre dans un rapport de force avec un être humain, Pascal de Clermont, vous qui êtes mentaliste et qui avez notamment publié « Si vous deveniez mentaliste », lorsque vous voyez l'agressivité, la violence, c'est-à-dire peut-être l'un des comportements les plus étranges, comment vous l'analysez-vous ?
Alors, on va analyser le contexte, mais là, le savoir plutôt d'abord quelle réaction le comportement d'agressivité, il est contextuel ou alors il peut être chronique chez une personne. Comment on analyse ? Il y a tellement de possibilités, c'est tellement vaste, je dirais, la question. Est-ce que je peux éviter le rapport avec cette personne ou pas, s'il y a agressivité ? Mais en tous les cas, pour revenir au rapport de force, en mentalisme et en communication, le rapport de force n'est jamais bon, de toutes les façons. On peut soumettre quelqu'un, mais on n'aura pas sa motivation, donc ça ne sert strictement à rien.
Vous nous avez expliqué que vous coachiez des individus.
J'accompagne, oui.
Les accompagner, c'est mieux d'ailleurs parce que c'est en français. Lorsque vous les accompagnez, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Qui sont ces gens qui vous demandent donc de les accompagner ?
Alors c'est très ça a été très vaste et ça continue. Ça peut être des sportifs, des Olympiens par exemple, ou les sportifs moins reconnus. C'est des hommes politiques pour être plus performants dans leurs prestations. C'est aussi des artistes pour travailler sur leur stress, leur créativité. Ça peut être des gens qui ont besoin d'une hyper-perception. J'ai eu des joueurs de poker, des avocats, des juges, j'ai eu des gens de la police, des gens de services de sécurité gouvernementaux moins officiels que la police. Le mentalisme, c'est un petit peu comme de l'eau. C'est-à-dire, vous le mettez dans une bouteille ronde, ça devient rond. Vous le mettez dans une bouteille carrée, ça devient carré. On a des applications phénoménales, aussi bien que ça soit en accompagnement, que ça soit en compréhension de l'autre, que ça soit en négociation, que ça soit en influence, que ça soit en développement de capacité. C'est phénoménal.
Serge Hefez, vous, lorsque quelqu'un vous appelle pour prendre rendez-vous avec vous à votre cabinet de psychanalyste, vous avez également la possibilité de savoir qui vous avez au bout du fil, de savoir qui vous allez rencontrer lorsque cette personne va venir s'asseoir ou s'allonger dans votre cabinet.
Ah mais oui, mais c'est tout à fait extraordinaire. Alors est-ce que ça s'est créé avec 30 ans de pratique ou est-ce que c'est une capacité que j'avais auparavant ? Je ne sais pas, mais 40 secondes de conversation au téléphone pour prendre un rendez-vous, et c'est tout un univers qui s'ouvre. Je sais déjà quasiment qui est la personne qui va venir, qu'est-ce qui va se passer entre nous. Vous savez, ce qui est très, très important dans ce que dit Pascal de Clermont, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est rarement dans l'expérience de ce qui est en train de se passer. On est toujours soit dans l'anticipation, soit dans le souvenir, soit dans l'essai de compréhension avec notre esprit. Mais vivre l'expérience avec quelqu'un, c'est laisser tous ses sens ouverts, laisser le corps parler en même temps que les pensées. Et c'est relier la parole avec le corps. C'est incarner la parole dans le corps. Lorsque on est dans cette expérience-là, eh bien, il y a une foule de choses de l'autre qui nous apparaissent et qui nous apparaissent évidents. Et
je crois que...
Eh bien, comment des souvenirs ont marqué son corps, par exemple ? Comment certains aspects du corps qui peut paraître un petit peu meurtri, un petit peu empêché, un petit peu retenu, eh bien, peuvent être la marque dans le corps de certains traumatismes, et parfois même de traumatismes que lui-même n'a pas reçus, mais qui ont été transmis à travers les générations par un de ses parents. Donc, si vous voulez, c'est cet ensemble de perceptions qui donne l'impression que c'est magique, que parfois on perçoit des choses alors qu'on ne vous en a pas parlé, mais c'est juste laisser, d'une certaine façon, les mots s'incarner différemment.
Lorsque vous entendez Serge Hefez, psychanalyste, parler, qu'est-ce que ça suscite en vous, Éric Bonnefoy?
Moi, ça suscite quelque chose de très parlant en consultation. Alors moi, ce sont des consultations à domicile pour pouvoir prendre en compte l'environnement et les gens dans leur environnement.
Vous occupez de chiens, je le rappelle.
Voilà. Ce que dit Serge Hefez concernant cette sensation qui peut être de l'ordre, en tout cas de l'analyse, enfin les gens peuvent le considérer comme du magique, je le vis assez régulièrement parce que quand je rentre en consultation auprès d'une famille avec cet animal qui est là, j'ai une façon de communiquer avec cet animal dès que je passe le seuil de la porte, qui est une communication bien sûr non verbale. Et il y a des modifications comportementales qui sont assez extraordinaires dans l'instant même, quoi. C'est, je veux dire, ça montre cette importance de tout ce qui est de l'ordre du non-verbal, quoi.
Et donc, du coup, le non-verbal, votre attitude corporelle, puisque ça, on imagine que lorsqu'on est face à un chien, c'est quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que ça va induire?
Ça induit des modifications du comportement du chien qui, en l'occurrence, va, dans son analyse, je vais le dire comme ça, en tout cas dans son analyse de ma personne, qui suis-je, qu'est-ce que je viens faire, enfin, etc., va adapter ses comportements aux messages qui lui sont envoyés de par ses micro-signaux. En l'occurrence, la plupart du temps, parce qu'on est quand même obligé d'être dans ce schéma-là avec l'animal, ce sont des questions de positionnement sociaux, et qui font que, a priori, je vais me positionner à un niveau supérieur au sien, qui va très rapidement le mettre dans un cadre de sérénité et d'assurance, qui n'est pas forcément le cas quand j'arrive.
Lorsque l'on dit qu'un chien ressent votre peur, est-ce vrai ?
Ah oui, oui, bien sûr. Il ressent tout ce qu'on véhicule et tout ce qu'on ne ressent même pas nous.
Et profite-t-il de cette peur pour attaquer ?
Alors là, il faudrait rentrer dans l'explication du comportement d'agression du chien qui est complexe, puisque c'est en fait de la communication, et que, bon, à part de rares exceptions de pathologies, mais qui sont exceptionnelles, le chien n'a pas de comportement d'agression gratuitement. C'est toujours à vocation à répondre à quelque chose.
Mais vous savez, il n'y a pas que les chiens qui ressentent votre angoisse. Les bébés ressentent l'angoisse. Les bébés ressentent l'angoisse de leur mère. S'ils ont une mère très angoissée, ils vont arrêter de manger et ils vont faire des cauchemars, ils vont faire des insomnies. Comment ça se communique, ça? C'est ça qui est très intéressant. C'est pas une communication magique, c'est une communication parce que le bébé est ouvert sensoriellement à tout ce qui l'entoure et qu'à travers les moindres gestes et les moindres perceptions, il va percevoir les perceptions de l'autre. Et c'est effectivement cette capacité-là que l'on perd avec les années.
Ce qui veut dire que lorsqu'on est mère ou lorsqu'on va le devenir, par exemple, il faut être extrêmement serein, travailler sur son aptitude à demeurer zen.
Non, c'est parce que c'est la vie qu'on a le droit d'être en colère, qu'on a le droit d'être triste, qu'on a le droit d'être angoissé. Mais par contre, on peut l'exprimer. Et on peut l'exprimer à l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut ratifier ce qu'on imagine que l'enfant est en train de ressentir avec des paroles qui vont lui expliquer ce qui se passe et qui vont l'apaiser.
Pascal de Clermont.
Je voulais rajouter un petit truc. On a soulevé deux points phénoménaux et principaux là. C'est la notion d'être présent dans l'instant, ce qu'on appelle le chikin dara mitsui dai komyo en japonais, ici présent, ici et maintenant, dans l'ordre des choses là, vraiment ouvert à tout, et aussi la capacité d'empathie, la capacité de ressentir l'expérience physiologique et psychologique de l'autre à distance. Et là, lorsqu'on parle de l'enfant, cette capacité qu'il a de ressentir cette empathie, elle est extraordinaire. Et quand ensuite adulte, il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi dès que je suis en soirée, qu'il y a quelqu'un de triste, je me sens triste, qu'il y a quelqu'un d'heureux, je me sens heureux, j'ai des émotions qui me submergent, je ne sais pas les miennes, c'est une empathie qui est subi, parce que l'empathie, on en parlait avec Eric ce matin, est une faculté qui permettait aux animaux, aux troupeaux, de ressentir la douleur des autres et donc de fuir quand ils ressentaient la douleur de ceux qui étaient attaqués. Nous, on l'a gardée, mais ça, c'est naturel, l'empathie. Par contre, la maîtriser, pas la subir, ça va demander un travail, mais c'est une force extraordinaire, puisque la communication mentale, la télépathie, c'est d'abord de la télé-empathie.
L'empathie, c'est quelque chose de naturel chez les animaux, chez les chiens, notamment, Eric Bonnefoy ?
Oui, je sais pas. Alors après, utiliser le terme tel qu'on l'utilise chez l'homme, je saurais pas vraiment le dire. Mais en tout état de cause, évidemment, il y a une prise en compte de l'état émotionnel du maître, enfin des humains qui l'entourent. Donc oui, on pourrait dire de façon empathique, sûrement, oui.
Est-ce que ça signifie par ailleurs, lorsque vous évoquiez les comportements, le rapport de domination qu'il pouvait y avoir ou ne pas avoir entre un homme et un chien, est-ce que ça signifie par exemple qu'un chien méchant, ça n'existe pas ?
Un chien méchant, ça n'existe pas. C'est une catégorisation qui n'a pas de sens. Un chien va construire ou développer ou surdévelopper des comportements de communication, d'agression en fonction de certains événements. Alors, il va les développer plus ou moins fort selon, mais de façon globale, un chien méchant n'existe pas.
Une dernière auditrice, Régine, qui nous appelle de Quimper. Bonjour Régine.
Oui, bonjour. Moi, je suis une ancienne professeure et j'estime qu'il n'y a pas d'acte pédagogique vrai s'il n'y a pas un éveil sensoriel comme ça à la différenciation de chaque élève, de chaque étudiant. Je pense que c'est par le non-verbal, d'abord, que l'on individualise la pédagogie, bien au-delà des programmes, etc. Si on n'est pas à l'écoute de toutes les attitudes de ses étudiants, de tous les regards, de tous les gestes, de ce qu'il y a dans les yeux, de ce qu'on peut pressentir de son passé, de ses lacunes, de ses forces, eh bien, on n'a pas de vrai acte pédagogique.
Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal de Clermont ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. La communication passe bien au-delà du verbal. Le verbal, c'est ce qui va masquer tout le reste. Et justement, on développe 95%, on va passer par ce non-verbal. Cette manière de... Le non-verbal, ça peut être aussi bien une intonation dans la voix qu'un geste, qu'un changement d'odeur de la personne. Très important pour les animaux, l'adrénaline, par exemple.
Merci, Régine, pour ce commentaire. Et Yann, un auditeur sur Twitter nous dit, Pascal de Clermont, que le mentalisme, ça n'est finalement que de la prestidigitation, que vous n'êtes qu'un magicien. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? C'est bien d'ailleurs d'être un magicien. Déjà.
Alors, un magicien de l'âme, de l'esprit peut-être, mais c'est vrai qu'il y a une énorme confusion qui naît à la fois du marketing et de l'ignorance, l'ignorance au marketing. Le mentalisme et le développement des capacités mentales humaines, c'est quelque chose qui date à peu près de 1740. Et effectivement, vers 1900-1925, le terme a été squatté par les illusionnistes de scène qui se trouvaient un petit peu démunis face aux prestations des mentalistes et ont voulu, à des fins marketing à l'époque, attirer du monde sur la scène en se prétendant mentaliste. On appelait ça des expériences de pseudo-télépathie, de pseudo-mentalisme. Quand on prend des petits bouquins d'époque, il y a
marqué télépathie. Est-ce que vous pouvez faire, par exemple, de la télépathie, si je choisis une carte, est-ce que vous pouvez
découvrir... C'est des tours de magie. Les tours de magie, c'est pas ma spécialité. Mon travail à moi, c'est de travailler sur les perceptions mentales de la personne. Donc voilà, je reviens sur ça. Cette espèce d'ambiguïté a été entretenue uniquement à des fins marketing, mais effectivement, le terme peut des fois être dévoyé pour ça.
Les mentalistes sont également très souvent mis en scène dans, par exemple, des séries policières, des livres policiers où ils cherchent à percer le secret d'un certain nombre d'enquêtes. Comment s'y prend-on ? Est-ce que véritablement il peut y avoir des bases à ce type de pratique ?
Oui, très clairement. Il y a très clairement des fondements dans la série qui a été faite d'ailleurs en consultation avec le plus gros cercle international de mentalistes qui relie à peu près 300 mentalistes professionnels dans le monde. On est reliés tous entre nous avec un network internet. Et deux des consultants étaient justement des membres de chez nous. Et sur les deux premières saisons, on voit très clairement l'empreinte de ça. Oui, les États y font appel aux États-Unis beaucoup plus qu'en France, officiellement. Et il faut savoir qu'il y a des demandes officieuses en France. Et la plus grosse difficulté, c'est de trouver le budget pour. Comment on classe ces gens ? On les appelle des consultants. Voilà. On ne sait pas.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à vos ouvrages, Éric Bonnefoy, Votre chien et vous heureux ensemble aux éditions Dunod et Pascal de Clermont, deux livres. Et si vous deveniez mentaliste et vos enfants sont hyper mentalistes, mais vous ne le savez pas, on va marquer une pause musicale avec Winston McAnuff et Fixie Garden of Love et tout de suite après, le mot du psy.
Through the love, we're all in this garden. seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to lose a smile and you can't rewind. You're welcome. You're welcome to my garden, my garden of love. You're welcome. You're welcome to my garden, my garden of love.
Service public sur France Inter, voici maintenant le moment du mot du psy.
Voilà donc inconscient et subconscient, c'est une question de souplesse. Inconscient et subconscient, et deux conscients et subconscients, maintenant on réfléchit bien sûr, et trois conscients et subconscients, hein, tout dans les genoux.
Serge Effèze, la fameuse salle d'injection à moindre risque, baptisée salle de shoot, qui devait s'ouvrir boulevard de la Chapelle à Paris, va finalement voir le jour, mais à quelques centaines de mètres de là, à l'intérieur même du site de l'hôpital parisien Lariboisière. Serge, pouvez-vous nous expliquer les arcanes un peu obscures de cette décision ?
Ah là là, la fameuse salle de shoot. Ce lieu où des toxicomanes les plus précaires pourront venir s'injecter leurs produits en bénéficiant d'un environnement sanitaire afin de réduire les risques d'infection et de contamination par les virus du sida et des hépatites et diminuer les dangers des overdoses. L'Assemblée nationale avait voté le principe d'une expérimentation le mois dernier au terme de débats houleux dans lesquels certains députés évoquaient des antichambres de la mort ou un feu vert pour les paradis artificiels. Je vais vous faire une confidence, Guillaume. Il y a déjà 20 ans, un certain nombre de professionnels dont je faisais partie réclamaient déjà l'ouverture de ce type de lieu pour endiguer l'épidémie de sida. Et depuis 20 ans, comme l'Arlésienne, on nous promet leur ouverture sans qu'on ne les voit jamais venir. Pendant ce temps, ces salles se multiplient dans de nombreux pays. 13 en Suisse, 40 aux Pays-Bas, 30 en Allemagne pour ne citer que les plus proches, et par le simple fait de leur existence se traduit par une amélioration de l'environnement et de la qualité de vie des riverains. Réduction du nombre de seringues usagées dans la rue, raréfaction du nombre de personnes s'injectant dans l'espace public, absence d'augmentation de la délinquance.
Et quel est le principe, Serge Effèze, de ce type de lieu ?
Bien, il convient pour le comprendre de saisir une politique, je dirais même une philosophie, qui est celle de la réduction des risques en matière d'usage de drogue. Cela consiste à prendre en compte le fait que l'idéal d'éradication des drogues, qui a longtemps structuré les discours sanitaires comme l'action politique, est une utopie. Si tout le monde ne peut pas devenir du jour au lendemain abstinent, comment limiter au maximum les risques sanitaires et sociaux liés à l'usage des substances psychoactives ? Cette politique a été introduite en France au cours des années 90, alors que l'épidémie de sida battait son plein. Les usagers de drogue représentaient 30 à 40% des personnes atteintes et le partage des seringues et des aiguilles était à l'origine de la transmission du virus. Une partie des professionnels a pris conscience qu'il était urgent d'offrir aux usagers qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas devenir abstinents des programmes de prévention et de prise en charge à bas seuil d'exigence. Des lieux d'accueil apportant une aide à la vie quotidienne, un accès au matériel stérile d'injection, une possibilité d'orientation sanitaire et sociale. Ainsi, les programmes d'échange de kits d'injection en pharmacie, la vente libre des seringues, la mise en place de traitements de substitution comme la méthadone ont permis une amélioration considérable. Résultat, le nombre d'overdoses a chuté de manière drastique et les usagers de drogue ne représentent plus que 2% des porteurs du virus du sida.
Et ces salles d'injection font partie du même dispositif sanitaire, Serge Effèze.
Absolument, et c'est pour cela que la Suisse, qui a été le premier pays à les mettre en place, a voté par référendum à 70% la reconduction de ce dispositif. Comme partout, les résultats se recoupent en termes d'amélioration de santé, mais aussi de sortie de la toxicomanie et de santé publique. Et pourtant, que de reculades, que de renoncements chez nos dirigeants avant de se lancer dans cette expérimentation. La dernière en date, ne pas ouvrir le lieu dans la cité pour permettre une première main tendue, un premier accompagnement pour ceux qui justement ne s'adressent pas au dispositif sanitaire. La salle ouvrira en effet au sein d'un hôpital, l'hôpital Lariboisière, avec semble-t-il une entrée dédiée et certainement pas avant 2016. Voyons le bon côté des choses et disons que cela va calmer les inquiétudes des riverains et permettre un accès direct aux soins pour les plus marginalisés. Aujourd'hui, on a envie de dire tout simplement, peu importe où, mais pourvu qu'elle ouvre.
Merci Serge, à la semaine prochaine. Bonjour Nagui.
Bonjour Guillaume, aujourd'hui nous recevons Christophe Bourseiller pour parler d'histoire. À tout de suite.
Merci Nagui, on vous retrouve tout de suite après le Flash.